Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Est-ce que vous la voyez encore, la hauteur, quand vous sautez ou pas?
En fait, c'est, t'as vraiment pas besoin de regarder ce qu'il y a en dessous, parce que dans tous les cas, c'est pas une option. Okay. Donc, et puis, en fait, il y a un truc très bête, mais et c'est comme ça.
On ferme les yeux quand on saute, c'est très bête.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximusca et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Quand vous visitez un monument en voyage, ça vous fait chier de faire la même photo que tout le monde? Eh ben Clément et Paul, c'est pareil. Spécialistes du parcours et de l'urbex, ils réalisent sur leur chaîne Hit The Road des vidéos incroyables aux quatre coins du globe où ils s'infiltrent et grimpent en haut de monuments les plus visités au monde et reviennent avec des clichés sublimes et uniques. Par exemple, je vous mets au défi de faire la plus belle photo qu'eux avec le Christ Rédempteur de Rio. Sur la leur, on voit Clément regarder vers l'horizon assis au niveau de la tête de la statue de Jésus à 30 mètres de haut. Non, évidemment, je vous mets au défi de rien du tout. D'une part parce que c'est ultra dangereux, parfois c'est complètement illégal, et surtout que Clément et Paul passent leur vie à s'entraîner pour réaliser ces prouesses. Mais avant que Paul et Clément, les Mario et Luigi de YouTube, nous racontent où ils ont préféré jumper entre Dubaï, Hong Kong, Kiev ou Sao Paulo, je dis bonjour à Marie.
Salut.
Ça va Marie?
Ça va et toi?
On a encore changé de lieu là, on est la Tsugi Radio parce que notre ami Jean Fromageau nous a prêté un quatrième micro, parce que d'habitude on a que trois invités, on a que trois micros, et là on avait besoin de quatre micro. Merci Jean Fromageau.
Merci Jean.
Voilà. Eh bien, bonjour Paul et Clément.
Salut.
Est-ce que ça vous va, Mario et Luigi? Je sais que sur BFM TV, c'était quoi quand on vous avait appelé comment?
Je sais plus, mais il y a un point commun.
Les petits macaques aussi, on nous a appelé. Ouais, enfin, non, on a eu beaucoup de surnoms très ridicules.
Voilà. Ça vous va, Mario et Luigi? Moi, je pensais vous vexer un petit peu, mais non, bah tant pis. vous êtes très conciliant.
Maxime, cette année, il veut vexer les
autres. Non, en fait, j'ai essayé de trouver d'autres duos, tu sais, dans les jeux vidéo. Moi, vos vidéos, ça me rappelle un peu Metal Gear Solid pour l'infiltration, quand vous passez sous des caméras, Mission Impossible, tout ça, mais en duo, j'avais pas. Nathan Drake pour Uncharted. Il s'accroche sur tout plein de trucs et
c'est
tout.
C'est marrant parce que nous, tu vois, on a vraiment grandi avec ça. Et, et plein de fois, on se retrouve dans la situation où on se dit, oh là là, notre vie est un film, tu vois.
J'allais dire, c'est un jeu vidéo, mais vous avez qu'une vie, quoi. Chaque fois. Et puis GTA, il y a la course-poursuite à la fin avec la police, parfois. Ça arrive.
Mais dans la vraie vie, t'as pas le code de tank pour t'en sortir, donc du coup, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est vrai que c'est
bon cheat code.
Bonne inspiration, On aimerait, tu vois, être vraiment. Presque jackass encore plus à faire des stunts en voiture ou des trucs de fou, mais évidemment la vraie vie c'est pas les jeux vidéo quoi.
C'est le budget ça.
Bon alors les amis, on va parler de tout ça. C'est la première fois qu'on fait un épisode avec deux invités en même temps, donc là je vais faire des petites adaptations. Je vais vous demander qui est le meilleur en anglais d'abord, s'il vous plaît.
Tricky.
Ok, déjà il a dit tricky, qui est un mot un peu tricky.
Ça, c'est la manière de me dire, bon, tu dis que c'est moi le meilleur. Non, en vrai, chaque Paul, il kiffe bien parler anglais. Il y a une époque, on s'est posé la question, est-ce que la chaîne YouTube, on l'a fait en français ou en anglais? Je t'avoue que moi, je me sentais plus à l'aise quand même en français. Ouais. Là où Paul était déter pour faire ça en anglais, tu vois.
Vous avez des gens qui vous suivent en anglais, vous avez beaucoup de vues en anglais ou pas?
Canadiens qui doivent parler du coup un peu les deux.
L'idée, c'est qu'en fait, au début de l'épisode, on demande aux gens de se présenter en anglais. C'est comme si on était dans une auberge de jeunesse avec que des touristes étrangers qui vous connaissaient pas. Cool. Donc là, il va falloir qu'il y en ait un de vous deux qui s'y collent, qui fait les présentations de tout le monde là.
Hello guys, what's up? We are Clément and Paul from Hit The Road and really pleased to be here today. We do videos for a living on YouTube. We mainly speak about infiltrating high stuff or hidden stuff underground or high up in the sky. And
ah putain, on est sur BBC Two ou quoi là?
Ouais, c'est vraiment, c'est parfait. Incroyable.
Tu les as bluffés là, j'ai vu les visages.
Non, mais, j'ai vraiment dormi 3 heures en 48 heures, donc je pensais pas être capable de vous faire une présentation. En plus, je suis nul à me présenter.
Clément, tu as une voix qui vient d'où déjà?
Ta voix vient de la gorge en résonance.
Voilà, donc là, c'est bien Clément qui parle. Paul?
Et le matin, c'est du cul, parce que la tête dans le cul.
Voilà, donc ça, c'est la voix tête dans le cul, c'est Paul. Alors, on va commencer par Clément. Je voudrais que tu nous parles de ton rapport au voyage. Dans ta vie, ça représente quoi? Le voyage, Ça a commencé comment tout ça, en quelques mots?
Ah, c'est une bonne question. Moi, ça a commencé assez tôt. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient en mode, tu vois, tous les jours, on vivait assez modestement, tu vois. Il n'y avait pas de sortie ciné tout le temps ou trucs comme ça. Mais ils faisaient en sorte, justement, de toute la vie soit un peu modeste, mais quand c'est les grandes vacances, c'est des vraies vacances, tu vois.
All in.
Et donc, on partait avec mes deux frères un peu partout. Moi, j'ai fait beaucoup la Turquie pendant presque 7 ou 8 ans. Tous les ans, on y allait. Donc, je connais bien le pays. Dit comme ça, la Turquie, ça fait pas rêver. Tu vois, tu penses à des, je sais pas, des moustachus qui font des Grecs.
On est là pour déconstruire tous les préjugés dans Tourista. Donc, c'est parti.
Et justement, tu vois, moi, j'ai toujours été très fan de mythologie grecque, etc. Donc, tu vois, les théâtres antiques, tous ces trucs-là. Et en fait, en Turquie, on pense pas, mais il y a vraiment des vestiges de fous qui, par rapport à la Grèce, sont moins découverts. Donc, il y a un côté un peu plus réel. Tu vois, genre, j'ai vraiment des souvenirs de 6-7 ans. On nage sur une micro-île. Et avec une bouteille ramassée par terre et la pollution et tout, on la remplit d'eau, on nettoie un peu la boue et on découvre des mosaïques, tu vois, en mode vraiment archéologie, tu vois.
Trop bien.
Et
ah ouais, non, c'était incroyable. Donc c'est vraiment ça que j'ai en tête. J'ai pas fait des gros voyages quand j'étais jeune lointain, ça restait quand même l'Europe, tu vois, assez proche. Mais j'ai vraiment ces souvenirs de Turquie, de grands théâtres antiques romains, etc. Et beaucoup de trucs comme ça. Donc pendant très longtemps, je voulais être archéologue, notamment avec ça. Et puis un voyage en Égypte en rencontrant une archéologue sur place qui m'a dégoûté en me disant que c'était mal payé, qu'il n'y avait rien à découvrir aujourd'hui et qu'à paraître le meilleur archéologue du monde, tu faisais pas grand chose. Donc elle m'a dissuadé, tu vois.
Comme quoi, la vie, c'est des rencontres parfois qui te font changer de destin et tout.
Mais c'est ce que je dis souvent, tu vois, c'est que je pense qu'à Apple, on est né à la mauvaise époque. On est né trop tard pour découvrir l'Amérique, mais trop tôt pour découvrir Mars, tu vois. Donc on est dans l'entre-deux et avec ce qu'on fait, c'est une manière de se réapproprier ou de découvrir des zones qui sont peu connues, on va dire.
Vous êtes inscrit quand même, parce que là, il y a des expéditions qui partent bientôt, hein, je crois. Non,
pour Mars ?
Ouais, non, je sais plus. Il y a le CES qui proposait le nouveau Thomas Pesquet de s'inscrire. Non, vous n'avez pas vu ça ?
C'est dingo, ça.
Ouais. Je pense qu'on n'est pas assez bon en sciences en général. Ouais.
Non, moi, ça m'avait sauvé, les maths, mais non, moi, ça va être un délire d'explorer.
Non, mais vous, c'était en poutre, vous deviez avoir 20 sur 20. En EPS, non ?
Précise la poutre en EPS.
Mais oui, c'est quoi, en poutre, vous deviez être méga bon en poutre.
Les gars. Tu disais, ensuite, après le voyage, non, t'as eu des...
Et après, non, bah, après, c'est, on va dire, l'époque moderne, tu vois, ouais. Donc ce qu'on fait d'aujourd'hui, donc, ça a commencé, nous, avec le parcours, donc on a, en fait, notre nom It's the Road, c'est issu de ça, c'est qu'à la base, on faisait du parcours, on voulait rencontrer les communautés de parcours en Europe et partout dans le monde. Et du coup, le voyage, on l'avait appelé Parcours Hits the Road. Donc le parcours prend la route.
Ah, trop bien.
Et avec le temps, le mot parcours est parti, parce qu'on fait plus que ça, tu vois. Et du coup, on a gardé juste le Hit the Road. Mais vraiment, nos premiers voyages, c'était sac à dos, hamac. Aucun endroit pour dormir, message sur Facebook à l'époque, dans les groupes, je sais pas moi, Parcours Madrid, salut les gars, on est des Français, on fait du parcours, est-ce que c'est une petite communauté, tu vois, est-ce qu'on peut se rencontrer, s'entraîner? On s'entraînait avec les gars, et soit on dormait à l'arrache en mode hamac dehors, soit les mecs nous hébergeaient, et donc ça a commencé comme ça, et donc chaque année pendant un mois, on allait avec un pass Interrail partout en Europe, pour rencontrer les gens, et voilà.
Trop bien.
C'est l'aventure. Bon, on reparlera de tout ça tout à l'heure, parce que je remarque que vous faites des rencontres à chaque fois, dès que vous partez dans des pays, genre dans les favelas, à Rio, tout ça, et que vous rencontrez des gens qui vous donnent des accès et tout. Je pense qu'il y a un vrai truc cool là-dessus, que j'ai beaucoup aimé dans vos vidéos, les rencontres que vous faisiez. Mais d'abord, je voudrais que Paul, le fatigué du matin, nous dise un petit peu, c'est quoi le voyage pour lui?
Le voyage pour moi, et ça a commencé assez tard en fait, ça commence en même temps que, enfin ça commence avec notre truc avec Clément quoi. J'avais peu voyagé, je crois le premier voyage qu'on a fait ensemble c'était un peu une sorte de pèlerinage à Londres, parce que c'était une des mecs du parcours à l'époque, parce que la communauté était ultra et l'architecture aussi super propice, et du coup on est parti ensemble à Londres, c'était le premier voyage un peu qu'on faisait comme ça, ça nous a vraiment donné envie de recommencer, et après quand on est parti chacun un peu pour les études, enfin lui, parce que j'ai pas fait l'étude, moi. Et du coup, on a gardé un peu cette tradition de chaque année, comme il racontait juste avant de partir. Et ça a été ça, en fait, le début du voyage. Et ce qui nous a vraiment fait kiffer, c'est, tu vois, l'inconnu. C'est pas savoir ce que tu vas faire dans la prochaine heure. Les rencontres, comme tu dis, tu vois, une rencontre, elle peut te faire basculer dans un tout autre voyage. Et pas savoir où tu dors, aussi, c'est hyper, hyper important, parce que ça laisse la place à l'impro. Et du coup, nous, on dormait sur les toits. Et c'était, je pense, les plus beaux souvenirs de nuit, tu vois, c'est quand t'arrives, tu trouve un vieux carton pour dormir, tu te cales sur un toit.
Et nous, on faisait les malins avec nos auberges de jeunesse à 2 euros et tout.
Toi, tu fais le malin, moi, c'est un rythme de vie.
Ah ouais,
c'est toi qui étais en mode quoi ?
Prochaine fois, on dort sur les toits, Marie.
Avec
mais tu sais que l'auberge de jeunesse, c'est peut-être plus dangereuse avec la saleté ou les gens que tu peux croiser parfois, que les toits, au moins, tu sais que personne pourra monter à part toi, donc t'es vraiment.
Le seul truc relou, c'est peut-être le coup de ton fa sur le crâne pour te réveiller. enfin c'est pas un vrai coup, c'est genre poc poc, c'est le mec qui te touche du bout du
du ton. On parlera de tout ça parce que ouais, des fois vous frôlez des, enfin vous, enfin vous le, comme parfois c'est pas très illégal ce que vous faites, hein, faut pas se cacher les amis. Je vous demanderai plus tard comment ça s'est passé, les policiers les plus gentils, tout ça, tous vos trucs. Moi ça m'angoisse me confronter à, dès que je fais des trucs un peu.
On le rappelle, Maxime dans le dernier épisode dit qu'il ne, il a peur de frauder dans le métro. Ouais, non, moi, donc le métro, vraiment il respecte.
Non mais la dernière fois on m'a demandé, là je suis allé au marché. Hein. Il y a un flic qui arrive en civil, il me dit bonjour. Et au début, j'avais pas compris que c'était un policier. Et il me dit, je lui dis bonjour et tout. Et puis je regardais, je voulais ce qu'il me demandait. Et il m'arrête, il me dit c'est la police, contrôle d'identité. Et j'étais en panique. J'avais acheté des carottes. Là, j'étais en dehors de la totale légalité. Et comme j'avais pas ma carte d'identité sur moi, j'étais en mode oui, non, mais j'habite à côté. Enfin, ça m'a mis, je suis devenu un enfant quoi. Après, il m'a laissé passer et tout. Mais...
Je suis sûr que je prends le métro avec toi, moi je fraude. Et qu'il y a des contrôleurs, je pense que tu me lâches. Je te vois, tu pars dans le métro et moi je serai là. Putain, merci Maxime.
Donc, vous me fascinez. Voilà, je comprends pas comment vous arrivez à faire tout ça. On en parlera plus tard. Mais avant d'avancer sur vos petites aventures, Marie nous a préparé un petit quiz.
Je peux faire les bacs. Je peux faire tes bacs maintenant.
Bon. trop bien.
Alors, nous avons un quiz où on va apprendre des choses aujourd'hui.
Ah,
un quiz spécial, les trucs les plus grands ou les plus gros du monde. Voilà. Je me suis poulé sur le thème. C'est juste ça le thème.
Ok, j'adore.
T'adores ?
Ouais.
Ok, super. Alors, le plus grand terrain de golf du monde s'appelle le Mission Hills Golf Club. Il est en Chine. Et sur ce terrain, vu du ciel, on voit un dessin. Mais un dessin de quoi ? Petit 1, de panda. Petit 2, de dragon. Petit 3, de panda, mais panda roux. C'est des blagues.
Bon, je dis panda parce que panda roux, faudrait que ça soit de l'herbe un peu marron.
T'as tout compris, hein.
Et puis moi je connais un peu les blagues de Marie, non c'est
voilà,
ça. Vous en pensez
ça.
Quoi les gars, ouais, c'est ça.
Bah oui c'est ça, c'est deux pandas et je trouve ça gaulerie qu'un truc qui est un peu luxe, tu vois le golf c'est un peu luxueux, tu vois il y a un panda trop mignon vu d'en haut. Bref voilà.
C'est pas un des symboles de la Chine. Les
si je pense, mais ça reste un panda en dessin d'herbe, tu vois, c'est pas un panda réaliste. Bref.
Ça se grimpe un panda.
Est-ce que un panda se grimpe, bah c'est pas super haut je pense, un vrai panda.
Si c'est un panda dans l'herbe, surtout, tu vois, 30 plus ou moins, max.
Deuxième question. Le plus grand stade du monde, c'est le stade du 1er mai en Corée du Nord. À votre avis, combien de spectateurs peut accueillir ce stade ?
Allez, les gars.
300 000.
Wow, ça serait...
J'aurais dit 12 000, mais je m'en rends pas compte.
000, non, les plus...
80 000, le stade de France.
Le stade de France, 80 000, je crois. Il y a du 120 000, je sais pas s'il y a du 120 000 à Barcelone ou quoi, un truc comme ça.
C'est vrai que c'est 80 000 au stade de France. C'est pas 300 000, hein. Là, t'es vraiment au-dessus.
200 000 150
000. 150 000. Ok, 150, ouais.
150 000. Okay. Voilà, donc la comparaison, c'est 80 000 le Stade de France. Vous m'avez volé ma petite transition.
Mais c'est en Corée du Nord, la Corée du Nord, c'est vraiment là-bas, quoi.
Ouais.
D'ailleurs, les foufous, là, qui font des trucs, les policiers leur courent après, vous avez fait des trucs en Corée du Nord ? C'est dans les bails ou pas ?
Non, pas encore.
Tu sais qu'on devait y aller juste en juin 2020. Donc, il y a eu le confinement entre temps, donc ça a tout annulé, donc le Covid et tout. Mais c'était prévu qu'on aille là-bas. Alors après, bien sûr, en toute légalité, parce que là-bas, c'est faut vraiment pas aller en dehors du là où on dit d'aller, tu vois.
Ouais. Peut-être au classement des pires flics, tu vois, ils peuvent.
Oui, je pense que ça doit être. Ça doit
mais
être
mais c'était prévu parce que, enfin, nous, ça nous, c'est fascinant quand même. Tu vois, un pays coupé du monde qui a pas toute la société capitaliste, qui a des statues à l'effigie de leurs dirigeants qui font, je sais pas combien de mètres de haut. Enfin, c'est très impressionnant. Et nous, on aime beaucoup, tu vois, toute la vibe brutaliste. Donc c'est un courant architectural.
Ouais.
Et là-bas, c'est vraiment très brutaliste. Donc c'est des ensembles de béton très droits, très anguleux, carrés, etc. Et donc juste pour un travail photographique, c'est déjà intéressant d'aller là-bas. Et puis juste par curiosité, certes, on va nous montrer le beau côté de la Corée.
Vous auriez essayé de gratter quand même, si vous y allez, vous essayez de gratter, vous allez demander, voilà, on peut grimper.
On peut grimper sur la statue de Kim Jong-un, s'il vous plaît.
On peut demander, mais, mais si on nous dit pas oui, on fera pas les fous.
Vous avez quand même des limites, donc.
Mais tu sais que le seul endroit où on a demandé pour grimper sur un toit, c'est dans la favela. Parce que le mec a un shotgun, tu vois. Donc c'est beaucoup plus dissuasif qu'une loi, en fait.
Oui,
tu vois.
C'est vrai.
C'est une belle phrase.
Ça fait un peu peur, mais...
Un petit peu. Maxime, il est liquide, là.
Ouais, je sais pas bien. Attendez.
Mais d'ailleurs, ce stade, qui peut être grimpable, puisque ses tribunes sont couvertes de 16 arches qui forment vue du ciel. J'ai un problème avec vue du ciel. Petit 1, une étoile rouge. Petit 2, une fleur de magnolia. Petit 3, le visage de Kim Jong-un.
Petit 3, je suis sûr.
Ah, j'aurais dit l'étoile, moi, vu que c'est sur le drapeau.
Le magnolia ?
Ouais, c'est le magnolia. Ce n'est pas l'étoile rouge et ce n'est pas sa tête. Parce que c'est vrai qu'en arche, peut-être. En même temps, il aurait été capable. Mm-hmm. Effectivement, ça fait une fleur de magnolia. Bref, la plus grande piscine du monde se trouve dans le complexe hôtelier de San Alfonso del Mar au Chili. Bon, déjà, le truc est énorme, hein, c'est une piscine qui fait 1 km. Mais à votre avis, quelle activité on ne peut pas faire, les utilisateurs de la piscine ne peuvent pas faire? 1, de la planche à voile. 2, de la plongée. 3, du surf. Une piscine, ça me fait rire déjà.
La planche à voile, je pense que tu peux pas. Question de vent. Parce que plongée, surf, il y a des piscines à vagues.
Ouais.
J'ai pas.
Eh bien, c'est. Tu t'es trompé. On peut faire de la planche à voile.
Dingo, ok, ils ont une soufflerie.
mais on peut pas faire de surf car il n'y a pas de vagues. Mais ce qui est un peu gaulerie, c'est que, à votre avis, à combien de mètres se situe tout bonnement la mer de cette piscine?
J'imagine très proche, ouais, en mode 1 km ou vraiment juste à côté, ouais.
C'est ça, c'est 100 mètres. Genre 100 vraiment, mètres. La mer est à 100 mètres, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a du vent. Finalement, est-ce que la mer ne serait pas la plus grande piscine de la planète? Voilà, c'était le quiz de Marie.
Merci Marie. Excellent, on a appris des choses.
Bah là, vous ressortez grandi.
Bon alors les amis, Google nous écoute.
Quoi?
Google nous écoute.
Bah oui.
Je suis chez moi, je regarde... je suis sur YouTube comme ça et je digue un peu, même pas, et là je tombe sur une vidéo de Hit the Road, ok, je connaissais pas, ils étaient en train d'escalader le Sacré-Cœur, ok, qui je rencontre le lendemain à un événement, je rencontre Clément et je vois sa tête, je fais j'ai vu une vidéo sur YouTube. Et le lendemain, je rencontre Clément. Je pense que Google a des nouvelles, nous écoute, tu vois.
Ah ouais, des nouveaux outils.
Ouais, nouveaux outils, mais ils sont un peu dans le futur, quoi.
Ah bah là,
non, non, c'est à l'envers. Normalement, tu parles d'un truc et puis après, tu vois des pops sur ton téléphone et tout. Tu te dis, putain, c'est bizarre, j'ai parlé de ça il y a pas longtemps. Bah là, ça a
maintenant,
été l'inverse.
Maintenant, c'est dans in real life, quoi. Ok.
Et donc, j'ai découvert qu'il y avait vraiment beaucoup de crottes sur les toits de Sacré-Cœur. Parce que les cocos. Donc, vous expliquez un peu ce projet. Comment tu penses là? Parce que c'est celui que j'ai découvert en premier.
Ouais,
c'est magnifique.
C'était, en fait, il y a le circuit touristique du Sacré-Cœur et donc qui t'amène sur le toit, ouais. Et on s'est dit, en fait c'est quand même des toits, quoi, donc ouais. En fait on pourrait totalement y passer la nuit pour pouvoir faire des photos au lever du soleil et bah c'est canon. Ouais. Alors, on voit tous le truc de là-haut et du coup on a passé la nuit dans une des tours à pigeons là, et donc effectivement ça, bah, c'est un peu leur royaume, quoi. Du coup il y a beaucoup de, c'est constellé, quoi.
Oui, comme il y a pas là où vous êtes un peu caché, parce qu'en fait vous avez fait le chemin touristique, ouais, à un moment, ouais. Vous avez pris un petit accès pop en mode discrétion, ouais. En mode Mario et Luigi, et après vous retrouvez dans un endroit où il y avait pas de nettoyage, pas rien du tout,
non,
et
ça, non,
et
ouais.
Il marchait sur les pas, ça fait
Et encore en vidéo, ça rend très peu. Oh. Ben, vraiment, t'as un gros 15 cm d'épaisseur de fientes de pigeons. Et tu vois, nous, on est avant tout amoureux des monuments et on, ouais. Dit c'est quand même terrible parce que la fiente de pigeon, c'est connu pour vraiment,
bah ouais.
Être corrosif, quoi. Ça abîme les pierres et tout.
Des fientes acides.
Et ouais, non, c'est terrible.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, il y a des mecs qui sont là, ils ont construit une putain de basilique, ils sont en mode waouh, machin. Et ils sont là, bon, les pigeons, ils chient, c'est chiant à laver. On va pas faire ça une fois par an. On laisse la fiente s'accumuler. C'est bizarre.
Ah ouais, mais je pense que ça fait genre 10 ans que c'est comme ça. Il y a 5 ans, c'était pareil, tu vois. Mais du coup, on s'est planqué là-dedans. Et puis après, Clem m'a dit, attends mec, la fiente de pigeon, c'est un peu mauvais et tout. Faut pas la respirer. On va dormir sur le toit. Et du coup, on a dormi sur le toit, quoi. Belle étoile.
Putain,
petit incroyable. Sac de couchage. Et c'était cool.
C'est un peu le retour aux origines, finalement. Tu vois, nos premiers voyages, c'était ça, on dormait sur les toits sans, ouais, rien. Ouais. Il y avait un peu ce délire, mais c'était très cool. Ouais, vraiment dormir à la Belle Étoile, déjà dans Paris, c'est stylé.
Ouais.
Et là, sur le toit du Sacré-Cœur, qui est un monument qu'on adore, qui est magnifique, c'était vraiment
et
fou.
Et après, dès que la lumière ça se lève, vous pas vous motivez, vous allez faire les photos de ouf pour vos comptes Insta et tout. Et
carrément, ouais. Bah, c'est un peu la démarche, ça, de créer un peu une image qui est sublime. Enfin, en fait, l'idée, quand on fait une aventure, c'est d'avoir une image ou plusieurs, si on est chanceux, genre un peu iconique, tu vois, ouais. qui peut genre, enfin. Tout de suite, tu te dis, ah, c'est à quoi ça ressemble dormir là-haut. Et là, on était contents parce qu'on a pu tout faire, la nuit, les photos, partir sans se faire arrêter, ce qui est plutôt sympa. Et voilà, on a fait toute la mission de l'entrée jusqu'à la sortie sans encombre, donc c'était cool.
Et oui, parce qu'à chaque fois, bon, bah, c'est pas très. Enfin, moi, je comprends pas comment faire un truc illégal. Moi, comme je disais, ça m'angoisse de ouf. Parfois, vous êtes fait arrêter, quoi. Et je sais pas, vous avez l'impression d'être assez détente dans le truc. Mais oh, ça fait partie du jeu et tout. Bon, bah là, si on se fait arrêter, il y a la police qui nous attend et tout. Et vous avez sorti votre prochaine vidéo qui sort à Rio. Vous avez fait un truc incroyable. Vous avez grimpé le Christ Rédempteur. De Rio, et vous avez fait des photos sublimes là-bas. Et là, ça s'est pas passé comme vous auriez espéré à ce moment-là?
par rapport à la sérénité du truc, en fait, ouais. Nous, on a commencé le parcours il y a donc 12 ans, un truc comme ça maintenant, et en fait, on s'est perpétuellement toujours fait chasser, arrêter, enfin, on dérangeait quoi. Donc, qu'on soit sur un banc ou n'importe où ailleurs. Du coup, maintenant que la démarche est un peu étendue à d'autres trucs,
ouais.
On a un peu l'habitude de déranger quoi. Donc, après, fondamentalement, que. Et puis on fait rien de mal, tu vois. C'est des fois, bon, on n'a peut-être pas le droit d'être là, mais genre un oiseau qui se pose ici, et tu vas pas lui jeter une pierre, quoi. C'est un peu le.
Ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est ce que je dirais aux flics s'ils m'arrêtent. Je dirais, hé, les oiseaux, vous les embêtez pas ? Eh ben.
Non, d'ailleurs, vous les embêtez vraiment pas parce que regardez toute cette fiente qu'il y a.
Il y a ça, et puis il faut pas oublier aussi que les. Enfin, tu vois, les policiers, tu leur enlèves l'uniforme, ils sont comme toi, tu vois. C'est des humains, tu vois. Donc, ouais. Donc je pense que parfois, on sacralise peut-être un peu trop l'uniforme aussi, tu vois.
Putain, c'est clair, moi, je sacralise beaucoup trop.
Non, mais c'est clair. Et puis derrière, en fait, c'est ce que disait Paul, c'est que nous, on sait que la démarche est saine, tu vois. On n'est pas là pour dégrader, pour abîmer, pour casser. Mmh. On est juste amoureux des patrimoines ou des lieux qu'on visite, donc on veut juste faire des images pour leur rendre hommage, finalement. Mmh. Donc déjà en termes de karma, on est serein avec nous-mêmes, on sait qu'on fait pas un truc mauvais.
Et ça, c'est important ça.
Ah oui, d'accord.
Et okay. Du coup on est plutôt serein là-dessus. Et puis encore une fois, vu que c'est des êtres humains en face de nous, la plupart du temps, du moins en France, quand tu expliques aux policiers pourquoi t'es sur ce toit-là, pourquoi tu fais ça, ils finissent par comprendre en fait. Alors bien sûr, t'as des gens qui sont fermés en mode c'est la loi et c'est interdit, donc tu peux pas les faire changer d'avis. Mais dans une grande majorité, quand t'expliques ta démarche, ton sport, les photos, que tu leur montres ton travail artistique, souvent ils sont aussi sensibles. Et du coup, ils
jouent dans la vidéo, on fait un selfie et tout. Non, ça vous est déjà arrivé
que... sur Paris, hein, les policiers que nous, commencent à nous connaître, donc ça va. Ouais. À l'étranger, moins du coup. Mais en tout cas, souvent ils comprennent et tout. Donc ils disent bon, bah je te chasse parce que bah, forcément c'est mon taf et t'as pas le droit d'être là.
Ouais.
Mais fondamentalement, je comprends ce que tu fais, donc je vais pas venir non plus t'emmerder et creuser un peu plus.
Puis le truc, c'est qu'ils ont tellement mieux à faire. Quoi. En fait, genre toute la journée, ils voient des relous. Tu vois. Là, ils ont deux gars qui sont un peu moins relous et puis coopérants. Tu vois. Et puis on partage aussi un peu avec eux le parcours du combattant et des trucs qu'ils font pendant leur parcours de policier que nous on pratique aussi. Mmh. Et puis du coup on se retrouve sur le sport et puis fondamentalement c'est vrai qu'on fait rien de mal, on n'a pas le droit d'être là mais c'est pas à la mort non plus quoi. Mmh. Du coup en général ça se passe plutôt bien et puis après on se fait pas arrêter tout le temps non plus quoi.
Bien joué. Je voulais un peu parler des rencontres que vous faites. Alors par exemple, dans une de vos vidéos, vous êtes en Ukraine et vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Mr. Soul, c'est ça ? Qui vous emmène dans des lieux incroyables. Bon, pareil, où c'est un peu cracra. Hein, vous allez dans les sous-sols pour arriver dans des bunkers. Il y a quelqu'un qui est venu vous voir aussi. Il est venu vous voir à Paris. Vous avez grimpé la Tour Eiffel avec lui. Et ouais, j'aimerais bien vous parler un peu des personnalités un petit peu atypiques que vous croisez qui font partie un peu de votre vie.
Bah ouais, c'est de plus en plus, on essaie de mettre en avant ces personnalités. Parce que tu vois, c'est bien beau aussi de faire des vidéos YouTube, de se mettre que soi en avant, mais je pense que aussi ce qui est important, et nous dans notre histoire, c'est toutes les rencontres qu'on a faites. Donc tu vois, la genèse de notre projet, c'était ces voyages, on dormait sur les toits, rencontrer les communautés, tu vois, de parcours, etc. Et en fait, on a perpétué ça, tu vois, aussi bien dans l'urbex que même là récemment à Rio, tu vois, où quand on était juste avant à Sao Paulo, on a rencontré des graffeurs et tout. Donc c'est important aussi de rencontrer les gens. Enfin, ce qui est bien aussi, c'est de pas forcément les mêmes univers pour creuser aussi un peu des sujets. Et nous, on aime bien, tu vois, on a souvent ce truc-là, on a des idées toutes faites dans la vie de certaines disciplines, de certaines personnes. Et tant que tu les as pas rencontrées, en fait, je trouve que c'est difficile de se faire son propre avis. Donc nous, on aime bien rencontrer des gens. Et donc pour revenir justement à ces personnages emblématiques comme Sol, justement, lui pour l'histoire, tu vois, on était parti en Ukraine, on était en mode comme à l'époque du parcours, on essaie de contacter des gens qui font un peu ça, juste se rencontrer, faire une expo ensemble et partager. Et dans ces milieux un peu extrêmes, finalement, vu que tu vis des aventures assez intenses, t'as des amitiés qui sont très fortes tout de suite, tu vois. Quand tu braves un petit peu la mort, entre guillemets, parce que t'es dans les hauteurs ou des endroits dangereux, ça resserre les liens, tu vois. Quand tu vis des aventures de fou, t'as d'autant plus confiance en la personne et tu lis vraiment des vraies amitiés. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et donc ce gars-là avait à cœur de nous faire découvrir son pays, les explorations qu'il connaît. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu un de nos meilleurs potes. Et puis après, voilà, tu vis des aventures de fou. Quoi.
Et il vous a donné des accès que vous n'auriez pas pu avoir sans aussi, non ? C'est ça ou...
Ah grave, bien sûr. Lui, c'est le MacGyver, le tout ce que tu veux. Quoi. Il te bricole des trucs fantastiques avec genre un trombone. Quoi. À chaque fois, tu le regardes faire et t'es fasciné par son art, quoi. Parce que ce mec s'infiltre partout, mais aucun cadenas, porte, souterrain lui résiste, quoi. Et donc, ouais, il y en a plein qui ont vachement de talent, super doué, du coup, qu'on essaie de plus en plus de mettre en avant dans les vidéos. Puis c'est trop cool de se dire que, ce dont on parlait, l'inconnu, tu vois, tu rencontres un gars, il va te présenter un truc fantastique, c'est essentiel. Donc, Sol, c'est un personnage un peu fondateur de la chaîne. Il y a aussi Mustang, du coup, Mustang Wanted.
Avec qui vous avez grimpé la Tour Eiffel, ouais.
À fond, ouais. Qui lui aussi est ukrainien.
Deux fois.
En 48 heures.
En 48 heures.
Donc c'était pas de la récidive du coup, comme ça n'avait pas été jugé.
Ah ouais.
C'est des petits tips. Si tu fais une connerie, refais la même tout de suite après, c'est pas encore de la récidive.
Ah, c'est pas con, ouais. Ouais, ouais,
alors, tu... sauf si comparution immédiate. Si c'était déjà...
Suivez pas leurs conseils, mes touristos et mes touristas. Mais ouais, très bien. Ah, c'est malin, d'accord, vous l'avez fait. Ah, ok, d'accord, très bien.
Alors, c'était pour une histoire de carte SD, mais ouais.
Putain, les gars, ils grimpent la tour Eiffel, ils ont une carte SD qui crame, quoi.
Ah ouais.
La poissasse.
Ouais, ouais.
Bah, t'imagines,
ah non, mais
ce podcast qui crame, tu fais quoi? Tu le refais?
Oui, mais ça va. On revient voir Jean Fromageau qui nous prête la Tsugi Radio. Mais ouais, oh putain, ouais, donc vous avez regrimpé pour faire les images. Et donc, ouais, pardon,
Mustang Wanted. Non, ouais, ce gars-là est incroyable. Il venait de repeindre aux couleurs de l'Ukraine l'une des sept sœurs à Moscou. C'est une étoile tout le temps. Enfin, c'est sept étoiles en haut des buildings. Il avait repeint une aux couleurs de l'Ukraine.
C'était en 2015, c'est ça, en 2000...
Ouais, 2014, ça, je crois. Ouais. Donc c'était vraiment en plein dans les tensions. Et donc il était parti en France le temps que ça se tasse un peu, quoi. Mmh. Et après, il avait été accueilli en héros chez lui. Et donc il était venu passer quelques jours à Paris. Et donc bah, nous, on était super contents de pouvoir recevoir quelqu'un chez nous, puisqu'on avait été reçus partout. Et donc c'est là où on avait pu partager ce moment-là. Et ouais, c'est assez unique, quoi.
Parce que ouais, ce gars-là, tu dis comme ça, bon, ça parle à personne, mais en fait, c'est un des pères fondateurs d'une discipline qu'on appelle le roofing.
Okay.
Donc, on a tous vu en peut-être 2013 sur YouTube, c'était vachement à la mode. Tu sais, on appelait ça des Russes, qu'ils soient ukrainiens, lituaniens, on disait que c'était les Russes en général.
Ouais.
De mecs qui suspendent à des grues, qui suspendent à des buildings très hauts.
En mode vertige de ouf.
Ou qui s'accrochent à des trains en mode train surfing, etc. Donc, lui, ça a été un des premiers sur YouTube à cartonner avec ce concept qu'on n'avait jamais vu dans le monde. Et du coup, bah, dans cette discipline, c'est l'un des pères fondateurs, tu vois.
Trop bien. Alors, j'ai appris un nouveau mot. Apparemment, on dit OG maintenant, quand c'est quelqu'un un peu...
Ça me fait rire que ce soit pour un nouveau mot.
Ouais, c'est un nouveau mot. On est venu dans la rue, on m'a dit « Eh, mais toi, t'es un OG et tout !» Je savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais bah ouais, t'es un des premiers sur YouTube et tout. Je fais « Ouais, ouais, je suis un OG, ouais, bien sûr. Ouais. »
C'est vraiment si...
C'est quoi, c'est original?
Ouais, je sais pas.
C'est ça?
Non, c'est quoi? Original.
Original, okay. Voilà. Avec l'accent.
Original. Voilà. Ouais, donc Mustang Wanted est un OG.
Exactement.
Du roofing. Moi, j'ai appris un autre mot.
Ah, trop bien. Bah, fou. Et alors, est-ce que vous pouvez... Bon, alors, la vidéo sur Rio, est-ce qu'on peut en parler? Elle sort quand, là? Elle sort en septembre, c'est ça?
Ouais. Ce serait une série de 4 vidéos.
Ah, une série
en septembre, absolument. Et donc là, on le présente au Rex dimanche sous forme d'un film, du coup, de 1h06. Mm-hmm. Donc, 4 épisodes seront découpés pour faire la série sur YouTube. Un peu différent.
Vous pouvez nous la teaser un peu?
Ouais, avec grand plaisir, pardon.
Non, pardon.
Ça fait 15 jours qu'on est dessus, on le connaît par cœur, le film.
Vous avez vendu, on peut dire ça,
bien
que
sûr.
Vous avez vendu les places au Grand Rex, mais vous n'avez pas fini le montage, et là,
on n'avait pas commencé. Et même le teaser sur Internet, il est, le teaser YouTube, on l'a fait, on n'avait même pas dérushé, on a pris au hasard des rushs, on a fait, vas-y, ça fait un teaser cool.
Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez réussi à récupérer les images, parce qu'à un moment, bon, bah, meilleur, ça spoil pas, on le sait déjà, c'est que la police vous a arrêté à la fin du truc, et vous avez fait de la garde à vue, un truc comme ça. Voilà,
on a esquivé la prison, ouais.
Oh voilà. Bon, spoiler, si vous pouvez nous teaser un petit peu, moi je serais ravi.
Avec grand plaisir. On était parti au Brésil pour rencontrer les communautés de mecs qui font des graphes très hauts, les pitchedores qui grimpent, machin. Et on est passé à Rio un peu dans l'idée d'aller découvrir les favelas interdites, toujours faire des rencontres. Et puis. En étant là-bas, on s'est dit on va aller voir le Christ, et puis on a vu le Christ, et puis on s'est dit waouh, mais en fait ça se grimpe de fou, quoi. Enfin,
évidemment.
C'était vraiment offert. C'était
zigoto.
C'était
putain.
Tellement offert que c'est genre, ça aurait été lâche de pas le faire, tu vois. Et du coup on y allait. Puis ouais, on s'est fait arrêter après, et c'est un peu de ça dont parle le film, c'est cette alternance entre exploration des favelas, on grimpe le Christ, on se fait arrêter, on retourne dans les favelas pour tourner, on a des problèmes avec les avocats, on gère les avocats, mais on retourne encore dans les favelas. Enfin, en fait, c'est vraiment les deux mondes qui s'affrontent dont on parle dans ce film-là, parce qu'il y a vraiment une scission de ouf entre le monde de la favela et en dehors, quoi. Okay. Et du coup, c'est à travers le parcours et la photo qu'on propose, du coup, d'explorer Rio et le Christ. Du coup.
J'ai trop hâte de découvrir ça. Hong Kong, on en parle un petit peu aussi, ça m'a fasciné. Ça c'était vraiment pareil, un jeu vidéo, mais quelle idée vous avez eue? Qu'est-ce que vous avez fait à Hong Kong? Qu'est-ce que vous m'avez fait là, les
j'ai
cocos?
J'ai l'impression de te rendre plus de compte qu'à la police.
mais non, moi je vois ça, je me dis, mais c'est ouf de faire ça, c'est trop bien. Mais vous avez escaladé vous êtes allé en haut d'une tour, d'un building, et ils ont mis leurs images sur un écran LED où ils ont mis une petite clé USB, ils ont pris Google Trad parce qu'ils n'arrivaient pas à savoir le logiciel, c'était en chinois et du coup ils n'arrivaient pas à savoir fichier, folder, comment on met le truc et tout. Et mais là après, mais moi je serais trop stressé de faire ça, je me dis
ça
mais.
Me fait tourner, c'est vraiment Maxime l'angoisse.
Mais non, mais t'imagines pendant qu'ils mettent, ils sont tout en haut du building.
J'imagine vraiment en train de regarder vos vidéos, faire putain, je me chie dessus.
Mais oui, ils sont là, ils sont dans les cages d'escalier, ils regardent et tout. Attends, on entend un bruit. Et ils continuent de monter, après ils arrivent, ils mettent leur clé USB, l'écran il commence à bugger et tout. Et il y a un talkie-walkie juste à côté d'eux. Je dis, mais si les gens arrivent, mais moi je préfère sauter du. Non, bref, mais je serais trop mal.
Et alors, j'adore te voir résumer les vidéos. Genre, vraiment, je vais t'envoyer nos vidéos et je vais te demander de me faire un react à chaque fois parce que c'est incroyable.
Mais non, mais c'est fou.
C'est trop bien. L'idée, c'était des Russes qui l'avaient fait il y a 5 ans quand même. Okay. Donc on savait que c'était un peu possible. Okay. Et,
c'était faisable, mais la question, c'est est-ce que c'était refaisable?
Ah oui, bien
parce
sûr.
Que les mecs avaient mis la vidéo en ligne, donc on s'est dit ça a été sécurisé entre temps.
Évidemment.
Ouais. Et puis ça change, tu vois, enfin 5 ans. Et en fait, ça change pas tellement. Ça a pas tellement changé. Donc on est arrivé en mode waouh, c'est toujours faisable. Premier repérage, on voit que c'est faisable. Du coup, on se dit bon, on va le faire.
Vous repérez sans. Ah oui, d'accord. Donc vous repérez le truc sans les caméras. Vous êtes allé jusqu'à l'ordinateur pour voir si.
C'est ce qu'on voit pas dans la vidéo. Ouais. C'est qu'il y a une première phase où en fait, on a fait tout le truc jusqu'au hack.
OK.
Sans le faire.
Ouais.
Et après, on a fait bon, bah maintenant, il faut faire un petit montage, une petite boucle et tout. Prendre des précautions, acheter une pince coupante si jamais ça a changé. Parce qu'on prenait l'avion genre le lendemain, donc il n'y avait pas de retente possible.
Mmh. Ah ouais, putain, le stress.
Et en fait, finalement, pas besoin de pince coupante parce que le cadenas, il était toujours mal mis, quoi. Et,
ah oui, vous avez pu. En fait, il y avait une chaîne, mais en fait, la chaîne, elle était un peu grande et du coup, vous avez pu passer sous le truc.
Exactement. Ouais, ouais. En fait, la pince coupante, c'était vraiment le dernier recours parce que, en fait, souvent, quand tu grimpes, t'as pas besoin de ces trucs-là.
Ouais.
Du coup, même la plupart des cas, on n'a pas de pince coupante, quoi. C'est juste.
Est-ce que la prochaine fois vous mettez des petits cadeaux parfois quand vous coupez 2-3 trucs quand même, genre vous mettez une petite sucette ou un petit truc, ça pourrait être mignon, genre bon d'accord, on vous a coupé un petit canard mais on est des gentils.
Bah, tu vois la technique de Saul en Ukraine, c'est que quand il arrive à hacker on va dire un canard, il en remet un mais il remet le sien, comme ça c'est lui seul qui a l'accès avec ses propres clés, tu vois. On n'est pas encore dans ce game là mais on va y venir, tu vois.
Mais ça c'est typiquement le genre d'aventure où il y a 1000 trucs qui peuvent mal se passer et donc que tout se passe bien, c'est tellement improbable que t'es subjugué, quoi.
Non mais ouais, c'est clair, moi, j'avais l'adrénaline pour vous à la fin, quoi. Quand t'arrives, enfin, te rends compte les missions qui se tapent, quoi. C'est vraiment, leur vie c'est un jeu vidéo, quoi. Ils sont là, ils disent allez aujourd'hui on va se faufiler, parce qu'ils commencent, ils sont dans des magasins pour accéder au cage d'escalier. Ils sont dans un magasin, il faut ok, la sécurité ne regarde pas, ok, donc là je rentre derrière la porte et tout, et puis il y a des caméras partout, ils passent sous la caméra. Bref,
non, mec, c'est... je te propose un truc, je propose qu'on t'emmène en tournage sur un truc comme ça.
Ah mais chaud, il serait chaud.
Mais non
mais je vais mourir de peur. Avez... Non mais oui, je pense que c'est bien parce que on va parler de peur justement aussi parce que il faut que je me mette dans la peur pour pouvoir débloquer des trucs dans mon cerveau. Par exemple le saut, moi j'ai fait du saut en du saut pendulaire et la première fois de ma vie que mon corps, j'ai senti me lâcher, le stress, mon cœur qui me dit, mon cerveau qui me disait il faut pas sauter, et mes jambes ont tremblé et genre j'ai dû me forcer à y aller. Mais je pense que maintenant si je le refaisais, ça serait finger in the nose, enfin un petit peu
ça
plus facile.
Ça c'est tellement l'inverse.
Mais la première
je
fois,
pense à des trucs comme ça,
ouais.
Où vraiment, genre soit élastique, genre de trucs et tout, où la première fois, j'avais aucune conscience. Et maintenant que je l'ai fait, je suis en mode, non, je vais pas le refaire. C'est sauter dans le vide, c'est débile.
Ah, non,
et du coup, j'ai la peur qui est après. Ouais, la première fois, j'ai rien.
Mais je te rejoins là-dessus, Marie, où nous, il y a un truc vachement fort en parcours, c'est que souvent, le plus dur, c'est le premier saut, mais le vrai plus dur, c'est le deuxième, parce qu'en fait, t'as déjà l'expérience du premier, donc tu sais potentiellement à quel point ça peut mal se passer ou s'il y a une douleur qui commence à arriver. Donc arriver à le faire une deuxième fois, donc repasser la barrière mentale avec la notion de ce qui t'attend,
alors que
la première fois, c'est l'inconnu, tu vois. Souvent, moi, je trouve que la deuxième fois est peut-être la plus difficile, tu vois.
Moi, je trouve que si on parle de ces sports où, si le saut élastique est un sport, hein, je sais pas s'il y a
des
compétitions de ça,
flipper,
mais
quoi.
En fait, ça en vient juste à est-ce que t'as confiance dans le matos, tu vois. Et en fait, nous, dans le parcours, il n'y avait que nous pendant des années, et là, de plus en plus, on commence à faire un peu des sports avec du matos, genre du parapente ou de l'escalade, où faut faire confiance, tu vois, à ton matos, et c'est un peu moins dépendant de toi. Et c'est marrant parce que du coup, comme nous, la partie nous-mêmes, on l'a éliminée il y a très longtemps avec le parcours, bah maintenant, on a juste à se familiariser avec le matos, et si la confiance est dans le matos, on se pose même pas la question de nous, quoi. Et c'est rigolo parce que on a bien plus peur du matos que de nous-mêmes, en fait. Tu vois, bien souvent.
C'est vrai que longtemps en escalade, quand on faisait donc des grandes falaises où t'es encordé avec des mousquetons, machin, un baudrier, on avait peur alors qu'on était accroché, tu vois, donc il n'y avait pas de risque techniquement parce qu'on était sur des vrais trucs sécurisés, officiels, qui sont bien faits, tu vois. Mais on avait peur parce qu'on n'avait pas confiance en la corde, on n'avait pas confiance au baudrier alors que ça retient 2 tonnes en charge pure, tu vois. Et c'est fou de se dire, genre, je suis stressé parce que j'ai pas confiance en le matos, alors qu'il est 10 fois plus résistant que toi, tu vois.
Mm. C'est aussi apprendre à l'utiliser parce que tu te dis, en fait, il y a plein de trucs dans lesquels tu peux facilement mourir parce que tu savais pas que ça s'utilisait comme ça ou que tu l'as mal utilisé, quoi. Mm. Donc, dans tous ces sports à matos, c'est apprendre à utiliser le truc de manière correcte. Du coup, on n'achète pas un élastique à l'Enterprise pour sauter.
Et du coup, tu voulais parler du rapport à la peur.
Non,
Maxime,
mais moi, Clément, à l'événement, il m'a dit qu'il avait peur de la mort, celui-là. Comment c'est possible?
Moi, c'est un vrai truc. Hein. C'est
la peur de la mort.
Ouais, c'est le truc qui me terrorise le plus au monde.
Ok.
Mais j'ai pas peur de mourir en faisant ce que je fais parce que je contrôle mon art, tu vois. Ouais. Mais c'est juste la question de la mort. Une fois que t'es morte et toutes ces questions, enfin, on a déjà parlé en off, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que ça s'arrête net? Est-ce que ça s'arrête comme si t'avais jamais eu conscience de ta vie? Ce que je trouve peut-être pire, en fait. Du coup, toutes ces expériences, à quoi bon si comme à ta naissance, en fait, t'as plus rien qui existe?
Mais toi, c'est une peur particulière. C'est pas une peur de. J'ai peur de mourir, donc t'as peur que ta vie s'arrête. T'as peur de ce qu'il y a après, en fait.
Ouais. Mais du coup, je veux pas que ça s'arrête parce que du coup, j'arrive dans le après et le après me terrorise.
C'est subtil quand même. Hein.
Mais indirectement, des gens m'ont déjà dit ça et je pense qu'il y a ce truc-là de. Tu vois, moi, j'ai par rapport à Paul, j'aime bien parfois défier un peu plus la vie, tu vois, me suspendre à un bras sur une grue ou des trucs comme ça où t'as pas de baudrier, t'as rien, tu vois, c'est juste ma main, ma poigne et tout. Mmh. Et c'est peut-être une manière de. Je sais pas, moi-même, je me fais ma propre psychanalyse, mais peut-être que c'est une manière de me sentir plus vivant, donc de me rendre compte que je suis bien là dans ce monde-là et que c'est cool. Mmh. Et une manière aussi de voir où est la limite pour la voir et ne pas la franchir, parce que c'est le après, du coup, qui me fait peur, tu vois.
Putain, fou ça. Hein.
Mais typiquement, si je me pose 5 minutes et je réfléchis à. Tu vois, j'ai déjà un tiers de ma vie qui est passé, si on se dit que je vis jusqu'à 100 ans, tu vois. Et tu vois, juste penser réellement de le temps qui passe, que de plus en plus le temps se réduit finalement avant la mort, ça peut vraiment m'angoisser, tu vois.
Moi, ça me saoule aussi. Ça me saoule aussi. À 34 ans, j'ai l'impression d'en avoir 75 là.
Mais... c'est un peu une personnalité.
Ouais, pardon, je tousse un peu. Et ouais, j'avais déjà posé cette question à Arnaud Boissière, qui est un navigateur qui fait le tour du monde en solitaire au Vendée Globe. Je lui demandais, mais c'est quoi pour le sens de la vie, c'est quoi pour toi? Et j'aimerais bien vous poser cette question là, parce que lui, il a répondu, je la cherche, je l'ai pas encore trouvé, donc je suis obligé de repartir faire le tour du monde pour chercher le truc, parce que vraiment il passe sa vie à faire des trucs complètement fous, quoi. Et vous, ce que vous faites un peu aussi, et vous avez, enfin, je sais pas, cette question là vous avez une réponse à y apporter?
C'est quoi le sens de la vie
pour vous?
Moi, je pense que ta vie, enfin celle qu'on a en tout cas aujourd'hui, parce que peut-être que plus tard on a
la retraite bientôt,
non, tu vois, t'as genre c'est la seule chance que t'as à expérimenter ce monde incroyable qui t'est offert, quoi. Et du coup, faut y aller, quoi. Faut surtout pas hésiter à faire les trucs, quoi. Se lancer dedans, réfléchir peut-être un peu, mais pas trop, quoi. Vraiment y aller, quoi. Tu vois, c'est
briser les codes de la société. Je suis pas bon pour partir dans le deep, moi.
Mais en vrai de vrai, t'as un peu de ça, tu vois. C'est nous, finalement, tu vois, à travers le contenu qu'on fait. Alors là, aujourd'hui, c'est sur YouTube, mais à une époque, on n'était pas sur YouTube, on faisait quand même pareil, tu vois. Donc c'est juste les médias de diffusion qui changent. Mais nous, le cœur profond de ce qu'on fait, c'est vivre ces aventures à deux, parce que du coup, on est potes depuis toujours.
Ouais, vous êtes potes d'enfance, ouais, je l'ai pas précisé.
Exactement. Ouais. Et nous, c'est juste vivre ça. Et donc là, maintenant, on le partage aux gens via YouTube, les réseaux, donc c'est cool, tu vois. On sent que y a des gens, ça les titille, et on adore recevoir des messages de grâce à vous, je me suis mis au sport. Ça peut être aussi simple
trop
que
bien.
Ça, mais ça peut être grâce à vous, je suis allé faire une expédition en haut de telle montagne et tout. Je m'en pensais pas capable, mais avec vos vidéos, ça m'a donné le courage. Ou aussi des gens qui te disent je suis incapable de faire ce que vous faites, parce que ça me fait peur, j'ai pas la condition physique, mais je vis par procuration des aventures de fou grâce à vous. Genre, typiquement, tu vois, sur les grues, il y a des gens qui sont terrorisés par le vide, mais ils disent ça me permet de vivre et de ressentir la peur avec justement les plans caméra, la GoPro embarquée, t'as vraiment ce côté immersif. Et ils te disent putain, j'ai l'impression de l'avoir fait comme si j'y étais, tu vois. Et donc faire transparaître toutes ces émotions, c'est trop cool. Et après, il y a aussi ce truc dangereux des réseaux où c'est trop bien de partager, de donner tout, mais parfois à trop vivre les aventures pour les offrir aux gens, tu perds un peu le truc pour toi aussi, tu vois. C'est que parfois, le film de Rio, là, c'est particulier, mais parfois on passe plus de temps sur le banc de montage qu'à vivre les aventures. Et du coup, là, on se met des stops en mode, attends, nous, notre vie, c'est quand même de s'entraîner, c'est de vivre pour de vrai et après le raconter. Et si tu passes trop de temps à raconter tes aventures, mais à plus les vivre, ça casse le truc originel, tu vois.
Il n'y a plus rien à raconter, du
coup. Vous avez déjà fait un truc sur Twitch une fois, genre un urbex ou un truc en direct
Tous les vendredis à 19h, ouais, Hit the Road Live.
Et moi, j'ai pas vu ça. Trop bien, ouais, ça doit être fou aussi en direct.
En direct, ce qui est cool, c'est on n'a pas fait beaucoup d'urbex parce que c'est difficile d'avoir la connexion 4G, d'avoir le lieu qui s'y prête, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc où, vu que c'est du direct, même nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Et typiquement, ça nous arrivait une fois en Ukraine de faire un urbex, de se faire arrêter par un mec armé, tu vois. Et les gens, ils étaient comme des oufs en mode, mais ils vont se faire arrêter. Enfin, genre, t'avais le mec avec la calage qui nous parlait en ukrainien, donc tu sais, ça sonne tout de suite dur, tu vois. Et les gens, ils pétaient un câble. Et en plus, on a une coupure 4G au milieu, donc eux, ils ont été coupés net. Et puis, ouais, c'est fou.
Et puis le truc, c'est que c'est impossible à expliquer à quelqu'un avec qui t'es en train de vivre ça, qu'il y a une caméra, que c'est connecté avec un petit boîtier, que c'est en live sur Twitch, tu vois. Ouais. Genre, les gens, du coup, ils se comportent avec toi vraiment comme. Donc t'es vraiment.
La caméra n'existe plus, ouais.
Exactement, tu vois, t'es immergé dans le truc. Et,
voilà. En parlant de policiers ukrainiens, apparemment, ils sont sympas, les policiers ukrainiens. Vous avez dit ça dans une des vidéos. Vous avez grimpé le pont qu'il y a dans le clip de Relsan, c'est ça?
Ouais.
Et vous avez rencontré des policiers à un moment aussi. C'est dans cette vidéo-là ou c'est celle d'après?
Un peu partout. Enfin, ouais. Vu qu'on a fait beaucoup de fois ce pont, donc c'est le pont du clip basique. Du
oui,
coup. Le clip
basique, ouais.
Et du coup, ouais, non, bah, en fait, c'est ce qu'on dit dans tous les pays. Bien sûr, t'as des cons partout, mais t'as aussi des gens adorables qui comprennent. Et j'ai l'impression que dans les pays de l'Est, il y a un peu plus cette culture de l'extrême, peut-être parce que la vie de tous les jours est plus complexe qu'ici, tu vois. Mmh. Et les gens comprennent, enfin, dès qu'ils voient une performance sportive, ils sont peut-être plus touchés dans les pays de l'Est. Mmh. Où ils se disent, putain, ok, pour arriver là-haut, je comprends l'entraînement, je comprends la détermination aussi de déjouer mon système de sécurité. Et d'ailleurs, dans l'urbex, dans les pays de l'Est, il y a beaucoup ce jeu du chat et de la souris. Des urbexeurs en Ukraine, typiquement, qui ouvrent des accès. Mais eux, ils sont en mode scie à métaux, ils coupent dans des trucs en métallique pour rentrer dans des tubes, des tuyaux d'aération, des machins.
Bah, bravo.
Et derrière, t'as les mecs de la sécu qui ressoudent les, trucs, tu vois, les barreaux.
Ouais,
et y a c'est vraiment le jeu du chat et la souris. Et c'est très différent de ce qu'on a en Europe de l'Ouest ou en France, où c'est un peu plus cadré, les gens osent pas trop, etc.
Idéalement, il est moins content, je pense, hein, quand on lui coupe un truc. Hein.
Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez, parce que du coup c'est devenu aussi votre taf de raconter vos aventures et tout, mais est-ce qu'il y a un ratio de genre ok là ça me manque, il faut tant d'aventures par an, il faut tant d'aventures de voyage.
Je pense la drogue, hein, l'adrénaline, hein, je pense que c'est obligé.
Ouais, bah ouais.
C'est pas un ratio qui est calculé, c'est un truc que tu sens. Après souvent, tu vois, quand on est en montage, je sais pas, le soir on va aller se faire un entraînement, on va aller se faire un peu taper le cœur à droite à gauche, tu vois, pour toujours, même sur une base journalière, avoir une petite dose quand même.
Mais taper le cœur, c'est pas forcément monter à 20 mètres de haut et se mettre au bord du vide. Hein. Ouais, dans des sports où on est très débutant, on se fait taper le cœur avec des trucs faciles. Genre, depuis peu, je me suis mis à la moto enduro parce que Paul en fait beaucoup, tu vois. Et je suis très novice, j'ai même pas le permis moto, mais maintenant j'arrive à conduire une moto. Et pour autant, je me suis pris une grosse boîte à 35 km/h et je me suis fait très mal. Ouais. Et je me suis rendu compte que, tu sais, 35, tu te dis c'est pas très rapide. Mais en fait, quand tu te prends un mur à 35, c'est violent, tu vois. Et moi, ça me terrorise. Du coup, et donc avec des petits trucs, parce que j'ai pas du tout un niveau de fou, ça me fait taper le cœur, tu vois.
Ce qui est trop bien, je trouve, c'est réapprendre des trucs. J'adore arriver et genre rien savoir et devoir vraiment plonger dans le truc. Et
le tricot,
ouais, absolument.
Par exemple,
je pensais à
attends,
ça en
piquer avec l'aiguille c'est au vrai, niveau d'adrénaline,
ça fait taper le cœur. Hein,
je me suis fait une écharpe,
pardon, ouais,
grave le tricot. Ouais.
Et quel genre de sport, ouais,
tu pourrais pensais... tricoter une voile de parapente par exemple.
Oh. Ouais,
tu peux l'acheter en kit.
Je sais pas si moi je ferais pas confiance à mon propre tricot pour faire du parapente après.
Vous avez pensé au base jump parce que ça pourrait vous aider à vous sortir de situation de temps en temps, non?
C'est un peu une des idées.
C'est la finalité pour nous, je pense.
Ouais. Ouais. Le base jump, tu sais, c'est un sport où tu montes d'un building ou d'un endroit un peu haut et en fait tu sautes avec un parachute dans le dos.
Je vois très bien. Chaque fois que je vois des vidéos de ces mecs qui font ça, je me dis putain, leur daronne, pendant 8 heures. Hein. Pendant 8 heures, peut-être, elle a poussé pour qu'ils sortent. Il va, wow, salut maman!
Juste
un cardiaque pour what?
Moi j'ai un ami qui fait ça et en gros, dès qu'on va dans des. Enfin, je suis parti à Abu Dhabi avec lui, enfin dans plusieurs endroits, et vraiment il a un radar. Dès qu'il se balade dans un endroit, il fait oh putain, ça se base, oh putain, ça se base.
il regarde un petit peu tous les trucs un peu haut et il va se les faire un peu, mais c'est un fou, hein, c'est complètement, moi à chaque fois je le vois je dis oh, on se connaît pas et tout, et surtout ouais, et lui tu sens vraiment que c'est un besoin, que c'est devenu vraiment une drogue, et que s'il a pas ça, s'il a pas sauté tous les 3-4 jours, il est en manque, mais vraiment c'est...
Mais soyez une meuf à Paris le soir, hein, vous allez avoir la
là on fait pas mal de parapente aussi, il y a aussi des en fait tu peux totalement jouer en urbain, en fait à partir du moment où t'as du vent qui frappe une petite falaise ou un petit muret, t'as une zone d'air qui monte, et donc si tu restes dedans tu peux genre voler en urbain, tu vois, et genre jouer très près du sol avec une voile de parapente, et ça c'est hyper drôle, ce qu'on appelle du proximity flying. Et puis on a quelques idées aussi de décollage comme ça en urbain, ça fera la bonne passerelle avec le base.
Mais c'est vrai que pour nous c'est la fidélité, dans le sens où on a commencé avec le parcours, donc t'es au niveau du sol, tu sautes, tu grimpes, tu peux monter un peu sur les toits. Avec la grimpe urbaine, bah, on a grimpé les tours, et une fois que t'es en haut, bah, à chaque fois on descend par soit l'escalier soit l'ascenseur, donc ouais, c'est un peu loser, tu vois.
Clair, à chaque fois je me dis oh, bon ça y est c'est fini, eh ben non c'est pas fini, on descend dans les escaliers, on retourne.
Après,
dans
quand,
le...
quand t'as 40 étages avec l'escalier, crois-moi que t'en as marre, tu vois, vraiment les mollets ils travaillent. Mais pour nous la finalité c'est vraiment, bah, une fois que t'es sur la tour et que t'as le point de vue, bah, c'est tu sautes, c'est vraiment le truc qu'il y a après. Mais comme on est novice et que c'est un sport quand même très dangereux, c'est pas pour tout de suite, en tout cas sur YouTube et tout, parce que comme on le dit, nous on fait des vidéos de choses qu'on maîtrise un minimum. Donc,
un maximum, j'espère, parce que...
Oui, non, bien sûr, mais là le bas, tu vois, c'est pas au bout de 10 séances qu'on va faire des vidéos et qu'on va commencer à le faire, c'est que t'as beaucoup de... Tu fais du parachutisme, hein, tout simplement, tu fais des sauts, et à partir d'une centaine de sauts, c'est un peu la théorie, le point, le point où tu peux te dire, vas-y, maintenant j'arrête de sauter de l'avion, je peux passer à une tour très haute.
Donc vous en êtes à combien de sauts là pour l'instant?
Zéro.
Ah ouais, trop.
Mais ça arrive 2023 là, ça va être les premières inscriptions.
Trop bien.
Génial. Ouais, je voulais...
Les proches.
Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos proches là? Comment ça se passe? Ils gèrent ça comment?
Bah, on est déshérités depuis.
Non, c'est l'inverse.
J'ai pas poussé 8 heures.
Il faudrait que nos proches soient sur nos héritages. C'est plus ça qui... Tu vois, c'est
ils soient quoi, pardon?
Il faudrait que nos proches soient sur l'héritage. C'est plus...
oui.
C'est plus leur intérêt, ça. Non. Bah, après, ça dépend des proches, mais ils le vivent plutôt bien. T'sais, après, ça fait longtemps qu'on fait ça. Super pédagogique dans l'explication qu'on a du truc. Et puis après... J'ai vraiment pas l'impression de faire un truc extrême, mais je pense que c'est comme ça avec plein de gens. Je parle avec justement un pote qui fait du base, il est terrifié par le parcours, tu vois.
Ah ouais.
Moi je suis terrifié par le base, donc peut-être on a chacun un truc à sa portée, tu vois.
Ah, mais... intéressant.
Le challenge est plus dans gérer une vie entrepreneuriale et de créateur de contenu avec une vie de couple et peut-être de famille, tu vois. Le challenge est peut-être plus là. Mais après c'est un truc qu'on a tous les entrepreneurs, enfin, maintenant,
c'est drôle, c'est drôle. C'est vachement plus galère de faire des vidéos.
Non, il parle d'entreprise là. Non mais moi, parce que par exemple mon pote fait du base jump, il a très très régulièrement dans son milieu du base jump des gens qui se loupent, quoi, et du coup il y a des enterrements, des trucs comme ça, et c'est une communauté où ils font des enfin je me souviens d'une photo en tout cas où ils y étaient allés déguisés en hommage à lui et tout ça, donc c'est un rapport à la vie et à la mort qui est un complètement différent, et c'est des trucs qui arrivent, et c'est pour ça que je me disais c'est pas juste créer des vidéos, quoi, c'est risquer sa vie en faisant des vidéos, quoi, c'est donc voilà.
Mais, oui, mais ce qu'ils disaient c'est qu'ils ont pas l'impression, vous maîtrisez votre art,
mais comment elle s'appelle dans Rocky là, sa copine?
Je sais pas, j'ai pas la ref.
Adriane, elle se chie dessus quand il est en train de faire la boxe, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Mais pour venir sur ce que disait Paul, c'est vrai que c'est pas venu du jour au lendemain où d'un coup je saute une tour. C'est que pendant 12 ans, ça a été crescendo, quoi. Au début, on a commencé le parcours. Tu commences entre deux lignes sur un parking. Tu sautes la ligne blanche et tout, comme sur les passages piétons. Puis un trottoir, puis un muret. Et au fur et à mesure, tu peux commencer à explorer des trucs un peu plus extrêmes. Et donc il y a vraiment eu cette progression, et bah moi de mon côté je sais que j'ai eu des parents très compréhensifs, et aussi tout de suite, tu vois, j'avais eu besoin d'un caméraman en fait pour filmer mes exploits, donc je demandais à mon père, donc lui m'a suivi un peu sur les toits, les machins, donc il a vu aussi la démarche que j'avais. Il a vu que en fait le parcours c'est très particulier par rapport à d'autres sports, bien sûr par rapport au base, mais par rapport aussi au skate, tu vois, où on n'a pas du tout ce côté casse-cou. Ça fait partie des valeurs du sport, où il y a même une honte de se blesser, genre quand tu te blesses tu vas te cacher derrière un muret le temps de récupérer, et tu ressors l'air de rien en mode non t'inquiète. Il y a vraiment ce truc là de quand tu t'es fait mal, c'est que t'as raté quelque chose dans l'entraînement, dans la préparation, donc il y a vraiment cette honte de l'échec, tu vois. Et donc forcément dans tout ce qu'on entreprend, on est En fait, ce que tu vois en vidéo, c'est vraiment la zone de confort où on sait qu'il n'y a plus ou moins aucun risque. On est vraiment dans le confort classique. Mmh. Et c'est à l'entraînement, quand tu n'es pas très haut, où là, tu vas te pousser à ton maximum, où tu peux te permettre de faire des erreurs. Parce que du coup, l'erreur n'est pas dangereuse en soi. Mmh. Donc, il y a vraiment tout ce travail de progression lente, contrôlée, maîtrisée, et pas du tout casse-cou de je saute, mais j'ai une chance sur deux d'y passer et tous mes potes vont mourir un jour ou l'autre. C'est pas du tout ça la logique chez nous. Tu vois.
Vu que vous vous entraînez sur des terrains où il n'y a pas beaucoup de hauteur, est-ce que vous la voyez encore la hauteur quand vous sautez ou pas?
En fait, t'as vraiment pas besoin de regarder ce qu'il y a en dessous. Parce que dans tous les cas, c'est pas une option. Okay. Donc, et puis, en fait, il y a un truc très bête, mais et c'est comme ça.
On ferme les yeux quand on saute, c'est très bête.
Non, en fait, c'est avec tous les sports comme ça, c'est ton corps, il va là où tu regardes. Mm. Donc, si tu veux pas aller là, regarde pas là où tu veux pas aller.
Ouais.
Tu
vois.
C'est comme l'auto-école, on m'a dit ça, regarde devant toi.
Pareil. Voilà. Si tu regardes le trottoir, tu vas te le prendre.
Ben, on va pouvoir sauter des buildings.
Mais moi, je me souviens, bon, mon expérience de ouf, le saut à l'élastique, on m'avait dit, regarde pas en bas, juste saute. Et vraiment, j'avais fait, j'ai regardé en bas, je veux. Oh oui, d'accord. Mais j'ai quand même sauté et j'ai fait le signe de Joule avant.
Trop fier de toi. T'as la photo? Je veux voir la photo.
J'ai la photo, j'ai la vidéo. Elle est exceptionnelle. Vraiment, j'ai un cri qui est trop drôle quand je tombe. Je mettrai ça sur le compte de Tourista.
Je veux voir ça. Est-ce que vous auriez une petite anecdote là, comme ça, qui vient de nulle part, que vous voudriez nous raconter? Un truc fou qui vous est arrivé en voyage?
Moi, je pense à un truc, mais tu m'as dit, ouais, pas ouf, c'est mieux.
Non, mais sinon, tu peux dire celle-là et si j'en ai une qui me vient en tête.
Écoute, c'est totalement random, mais c'est ça qui est rigolo dans cette anecdote. Et c'est genre la bonté humaine de te sortir de situation un peu relou. On est en Bulgarie, on vient d'infiltrer un bunker perdu dans les montagnes pour y passer la nuit. Et
anecdote nulle, ouais, le mec il est dans un bunker en Bulgarie, n'importe quoi.
Avec Poutine,
trop bien l'anecdote.
Et c'est un vieux bunker de stockage de têtes nucléaires, donc c'est assez drôle comme ambiance.
De l'époque soviétique, donc il n'y a plus rien dedans. Je
ouais, 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 ouais. Tu m'as serré la main, t'es mort dans 48 heures.
Vous aviez un compteur Gégère ou pas quand même?
Pas là, c'est vrai que c'est une bonne question, mais pas là. Mais c'était ok, je crois.
Okay.
En vrai. Et bref, du coup, on se casse et en fait, le taxi qui devait venir nous chercher nous a fait un plan. Donc, on se retrouve dans la Pampa, genre 200 km de l'aéroport. Il n'y a pas de réseau et il est genre 5h du mat, 5h30 du mat. L'avion est à 10h à Sofia, quoi.
On aime bien faire des missions de fou juste avant l'avion, t'as remarqué, tu vois, à chaque fois c'est juste avant.
Hop, je me casse. Et bref, et du coup, on marche, je crois. Un truc genre 20 km jusqu'au lever du jour, un truc comme ça. Peut-être un peu moins parce que du coup, lever du jour, 2 heures en 20 km, le mec a couru quoi. Mais on marche pas mal, on récupère du réseau, impossible d'appeler un taxi, ils viennent pas ici et on fait du stop comme à l'époque quoi, tu vois. Et on est pris par un mec.
Déjà, juste sur le stop, en fait, je sais pas pourquoi, quand on faisait du stop, déjà les gens s'arrêtaient pas et ils nous faisaient des signes bizarres. Donc on s'est dit, ça se trouve, tu sais, il y a cette rumeur de le pouce là pour faire du stop.
Ouais.
Dans certains pays, c'est peut-être une insulte ou ça veut pas dire faire du stop.
Merde, putain,
et on s'est posé la question de. Parce que les gens vraiment, ils nous faisaient des signes chelous.
Vous êtes ma boule quoi.
Et du coup, on se demandait, genre, est-ce que pour eux, c'est un doigt d'honneur peut-être, on sait pas. Donc on se demandait, tu vois.
Est-ce que du coup, vous faisiez coucou plutôt?
Bah ouais, je sais pas, les gens voulaient pas s'arrêter quoi. Vraiment.
Ouais, c'était vraiment pas dans la coutume du tout. Mais donc on est resté vraiment à faire du stop en 45 minutes à se demander si on allait bon.
Après trois mecs transpirants avec des habits un peu tactiques du cambouis sur eux, ils doivent se dire mauvais plan de prendre ces mecs là en stop. Tu
quand il fait et là d'un coup il y a un mec qui s'arrête et en fait le mec livrait des frites et donc c'était une camionnette de frites tu vois et genre en gros il livrait des frites surgelées dans tous les putains de villages, donc on a fait tous les villages pour livrer des frites jusqu'à arriver à Sofia à l'aéroport.
Oh trop bien. Original. Ça commence dans un bunker, ça finit dans un camion de frites.
Dans un Burger King.
On n'avait jamais eu ça. Hein.
Ouais,
bravo.
Franchement, belle anecdote.
T'en as une autre ou pas?
Là tout de suite, ça me fait penser à une même anecdote de galère aussi dans le même genre. Il y a 2017, on était en Ukraine pour faire un docu qui s'appelle Explore. Du coup, qui est sorti l'année dernière, pareil, on a fait un grand Rex et tout. Et ce docu, c'était partir en Ukraine et voir un peu toutes les énormes structures d'ex-URSS, donc des grandes bases de radar, des zones abandonnées, militaires, industrielles, etc.
Ouais.
Donc on avait fait tout un trip en 2017. Et donc vers la fin du voyage, on est perdu vraiment dans la Pampa à l'est de l'Ukraine. Donc vraiment, t'as pas un village autour, c'est paumé. Et on roule sur des... Alors Maps, très malin, Maps, il te met des routes. Et quand t'arrives, c'est des chemins de terre, c'est pas des routes, tu vois. Ouais.
Ah, ça c'est
et toi, t'es en mode... À l'époque, on n'avait pas une thune. Pour y aller, on avait dû acheter un Scénic. Donc c'est pas le meilleur 4x4 qui existe pour rouler dans des chemins ghetto. Et donc on roule avec ce truc-là. Et on roule, il pleut de fou, c'est presque le début de la nuit. Et à un moment, on entend un gros paf. Et en fait, il y avait un espèce de petit renfoncement dans la route.
Oh,
donc les roues avant sont rentrées dans le trou. Et en fait, tu avais juste un galet pointu qui dépassait, qui a tapé pile dans le carter, qui l'a percé, alors que c'est une pièce très résistante.
C'est quoi et un carter? Ça sert à quoi le carter?
C'est là où tu as l'huile très très chaude qui permet de garder ton moteur pas cassé, tu vois.
C'est la boîte, tu vois. Et là, montagne Carpate, il y a des loups, des ours, il y a personne. Quoi,
Renault Assistance, ça marche ou quoi là?
Pas trop, tu vois. Et on roule et en 10 secondes, tu as le petit voyant, tu sais, huile moteur rouge où tu sais qu'il faut que tu t'arrêtes, sinon ton moteur, tu vas le casser. Et donc on s'arrête, on ouvre la porte et là, on voit le petit poussé, genre vraiment la ligne noire d'huile moteur tout derrière nous sur 30 mètres.
Mission impossible encore.
Et donc on suit la ligne noire de pétrole là et on tombe sur le petit galet pointu. Mais vraiment il était tout petit, mais juste pointu là où il fallait, à l'endroit précis où ça casse tout quoi.
Scène de film.
Et donc là on est en mode on est au milieu de nulle part. On captait une fois sur deux une micro barre de réseau. C'était même pas de la connexion internet, c'était la barre service d'urgence, tu vois.
Vous aviez de l'eau sur vous?
On avait quelques provisions, mais on était en mode c'est chaud, tu vois. Et à un moment, on arrive à capter un bout de réseau. On appelle l'assurance en France.
Putain.
Donc là, va leur dire, alors on est en Ukraine, on n'a pas internet, donc on peut pas vous donner l'endroit exact, mais c'est à peu près cette route-là.
Oh,
et donc la meuf qui était au bout du fil, genre trop sympa, qui s'est vraiment, genre dans sa tête, ça devait être mission impossible,
il faut que
j'aide les Français, tu vois. Donc elle commence à passer des coups de fil, des machins, pendant qu'on était encore en ligne, parce qu'en fait, on pouvait pas raccrocher dans la peur de perdre la barre de réseau, tu vois. Donc on l'entendait passer les coups de fil et tout. Elle nous dit, j'ai trouvé un partenaire dépanneur en Ukraine. Il sera là dans environ 2 heures.
Wow.
Et sauf qu'on a donné un point approximatif, donc on s'est dit à tout moment on va le rater. Donc on attend, la nuit passe et on commence à s'endormir dans la voiture parce qu'on était HS, tu vois. Et en fait d'un coup on entend un gros bruit qui toque. Et en fait c'était le mec qui toquait à la fenêtre, mais genre depuis, alors j'ai envie de dire 10 minutes c'est un peu abusé, mais depuis à mon avis 30 vraies secondes longues. Et on se réveillait pas parce qu'on était KO, tu vois, du tournage de la nuit d'avant. Et donc c'était le dépanneur qui nous a trouvés. Et donc du coup il nous parle en ukrainien, on comprend pas trop, mais bon on lui file la clé en mode débrouille toi tu vois. Il monte sur la dépanneuse, déjà de la dépanneuse on sait pas comment il est arrivé là, il monte la voiture. Et là on roule toute la nuit, donc de 1h du mat jusqu'à 7-8h pour aller dans le premier village proche, tu vois, un peu où il y a des garages. Et il nous dépose dans un garage, pas un garage Renault agré, un truc ghetto machin. Et donc le mec qui fait toute la route, nous on teste un camion où t'as les 3 places à l'avant.
Ouais.
Donc on est 4 sur 3 sièges. Voilà. On dort toute la nuit, le mec ne dort pas de la nuit, il roule vraiment pour nous amener au garage, genre trop sympa. On s'endort limite sur son épaule en mode gênant et le mec est trop cool, il roule et il
joue en même temps.
C'est ça, ouais. Pas méchant, tu vois. Et il nous dépose là-dedans en mode il y a rien à payer parce que c'était pris en charge plus ou moins par l'assurance, donc il nous dépose là-dedans. Les mecs du garage nous font un rafistolage avec une espèce de pâte thermique, je sais pas quoi. Ils nous disent bon, c'est pas viable, mais ça vous permet de faire les kilomètres jusqu'en France pour rentrer et vraiment réparer dès que vous arrivez. Et du coup, tu vois, toutes les 2 heures, fallait remettre de l'huile parce que ça fuyait quand même la petite goutte.
Oh, galère.
Mais c'est vraiment ce truc-là de, tu vois, la bonté des gens des pays de l'Est. Pareil, en fait, avec cette voiture, en 2017, on a eu 1 milliard de galères. Et à chaque fois, des mecs sont venus, sortis de nulle part, nous aider. Comme une fois, on est tombé en rade de batterie, dans un chemin perdu. Il y a une petite Lada, t'es les vieilles voitures de l'Est qui passent à ce moment-là. Les mecs s'arrêtent, ils nous prennent la batterie, ils partent avec. Donc, tu sais, il y a un trou dans la voiture où il n'y a plus la batterie. Et ils reviennent 3 heures plus tard, en mode, ils sont allés la charger au supermarché et ils sont venus la ramener.
Fini sur l'anecdote du radar en Allemagne.
Je te laisse la raconter.
Ah ouais, on rentrait 18 heures de route depuis Kiev, c'est vraiment là qu'on voit que c'est à côté. Genre 18 heures de route quoi, donc c'est deux Paris-Marseille pour les stats quoi. Et non bref, et du coup on s'alternait, moi j'ai pas le permis donc ils s'alternaient, Clem et Nico, et puis du coup fatigue de ouf, et ils sentaient qu'ils s'endormaient, et en fait effectivement ils sont bien dormis, parce qu'un jour on a reçu en Allemagne, ils t'envoient les photos sur les radars, tu vois.
C'est pour prouver que c'est bien toi qui conduisais, t'as la photo de ta voiture photographiée avec un zoom sur le conducteur pour dire c'était toi, tu vois.
Putain,
et du coup là il y avait Clément sur la photo, et Clément
est sur la photo, je suis comme
ça. Mais non,
en train de dormir,
bien.
Absolument, en train les yeux fermés, en train de pioncer quoi.
Et la photo est vraiment mythique, tu vois, c'est
incroyable.
Genre,
attends, t'as pas le permis, tu l'as toujours pas?
J'ai que le permis moto, moi, historiquement.
D'accord, non, parce que ça m'a ça m'a perturbé.
Je suis même en train de me dire, je passerais peut-être le permis avion avant celui de la voiture.
Pourquoi?
Parce que j'aime bien.
Mais parce que bientôt il y aura des voitures qui se conduisent toutes seules. Il est dans le futur, ce garçon, c'est cool.
D'accord, ouais, mais du coup, quand tu pars en voyage, typiquement, tu t'endors au volant.
Oh, non, mais t'as bien. Ah ouais.
Putain, j'ai une bonne anecdote d'endormage au volant. Bon, elle est courte.
Ah, vas-y, courte.
Je la fais
courte. Non, ouais, vas-y.
Bah, un jour, je conduisais beaucoup, quand en dernière année d'études de journalisme, on faisait des reportages en France. Et donc, toute la nuit, tout le temps, on tournait, on partait en voiture, etc. Et pareil, tout le monde n'avait pas le permis. permis. Donc je conduisais, je me tapais des 6 heures de route toute seule, quoi. Et à un moment, genre, je suis sur ma petite route, tranquille et tout, 4 Red Bull dans le bide, enfin voilà. Et là, j'entends Marie ! Je fais quoi ? Quoi ? Qui m'a appelé ? Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde dort dans la voiture. Je fais, mais quelqu'un m'a appelé ? Non, personne t'a appelé, meuf. Et je pense qu'en fait, j'étais en train de m'endormir.
Oh,
et j'ai rêvé que.
Ton inconscient t'a réveillé.
Exactement.
Waouh, Marie !
Oh, le mode survie, quoi.
Attends, mais t'es Gémeaux, toi, ou quoi ?
Pas du tout, Bélier.
Mais c'est incroyable !
J'entends vraiment, vraiment, comme dans Harry Potter, quand il entend sa mère et tout, des trucs comme
putain,
ça.
Tu t'es sauvé tout
seul.
Tu t'es auto-sauvé, quoi.
J'ai fait quoi, quoi ? Mais pourquoi on me gueule dessus ?
Bon, faites des pauses, les amis, quand vous conduisez.
Oui,
faites des pauses sur la route.
Et prenez des assurances, apparemment, ça sauve pas mal des situations. Waouh, hein. Waouh, mais alors tellement d'anecdotes, les amis.
C'était trop bien.
Ouais, c'était cool, hein. Il y a des trucs que vous n'avez pas encore fait, que vous rêvez de faire, à part le base jump dans votre bucket list. Il y a quoi, là ? Vous auriez un ou deux trucs
Des bâtiments.
Bah, en lieu, il y a bah, du coup la Corée du Nord où moi je sais que j'y un jour.
Ouais.
La Chine, dès que ça réouvre, on a 1 milliard de trucs à faire là-bas aussi.
Ouais.
On avait, bon, la Russie, là, c'est un peu complexe, mais on aurait aimé aussi y aller, parce que pareil, c'est tout un game de l'urbex, pays de l'Est et tout,
ouais.
C'est très développé. Et le Kazakhstan aussi, qui nous parle bien.
Mais j'ai envie de traverser un continent en paramoteur.
Oh, trop c'est bien, un paramoteur, c'est en fait c'est une ouais. voile avec un petit ventilateur qui te...
Ah,
qui
ouais,
te...
Ouais.
Exactement. J'ai potes qui font ça.
C'est trop bon.
C'est... Ouais, tu t'as l'impression de
quel
voler.
Quel continent
ouais.
Tous.
Ah d'accord, ok. À tous.
Non, non, ouais.
L'Australie.
L'Amazonie. Enfin, c'est pas un continent, okay. Mais l'Amérique du Sud, ouais. Et puis.
Tu serais pas le nouvel Yann Arthus Bertrand, vu du ciel.
Vu du ciel, exactement. Non, et puis on a aussi
ciel,
quelques projets pandas. Motorisés en bécane aussi.
Ouais.
En Afrique.
Quelle partie
Une traversée, du coup.
Ah ouais, toute l'Afrique. Oh, d'accord. Oh là là, ces trop aventuriers, bien. Là. Eh, on est peu de choses, nous, à côté. Hein. Nous, l'aventure.
Moi, je vais aller en Grèce.
Nous, on a joué au Kapla dans une.
On a joué au Kapla en Thaïlande.
Dans une auberge jeunesse.
Merci Clément et Paul, c'était incroyable. Merci beaucoup trop d'avoir bien. Pris du temps pour nous. Je sais que vous êtes en plus dans un rush de ouf pour monter la vidéo sur Rio qui va sortir en septembre sur votre chaîne In The Road. Vos comptes Instagram, Clément, donnez vos comptes comme ça. Je les mettrai en.
Clément.hter.
Clément.hter.
Et Paul RDB.
RDB. Je les mettrai en description. Mais ils font des photos incroyables. Enfin, vraiment, je pense la photo vraiment de Rio, impossible de faire.
Elle est à liker.
Elle est, voilà. Bon, bah, c'est un petit cœur, quoi. Allez. Et puis nous aussi, vous mettez des petits cœurs, des
oui.
petits 5 étoiles. Merci beaucoup de partager les épisodes en story, de mettre des petits commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast et sur toutes les applications de podcast. Ça nous fait grossir, ça nous fait grandir. On a des surprises. Là, on enchaîne. On va faire un épisode en public à la Douve Blanche. C'est Jean Fromage. Qui organise. Ensuite, on va aux Vieilles Charrues, c'est calé. On va, si vous êtes aux Vieilles Charrues, on viendra vous voir, on fera un épisode.
Envoyez des DM sur Instagram.
Ouais, envoyez des DM, mais on va en reparler, on va communiquer dessus. Mais voilà, on continue, on essaie de faire un petit peu des trucs originaux pour cet été avant de prendre des vacances bien méritées. Et.
On vous embrasse.
Bisous, merci Paul et Clément.
Merci, c'était un plaisir.
Fly.
Ciao, ciao, ciao.